Vous écoutez RTL.
Bonjour et bienvenue dans Confidentiel sur RTL. Une heure ensemble, dans les pas d'une personnalité, comment, en quelques jours ou quelques mois, on devient célèbre, on passe de l'ombre à la lumière, les paillettes, l'argent, mais aussi le cortège des mensonges, des excès ou la solitude. Il y avait sans doute tout cela dans le génie dont nous parlons aujourd'hui, immortel et donc éternel depuis mercredi. Un film, Bohemian Rhapsody, raconte sa vie et celle de son groupe qui a marqué l'histoire de la pop et du rock. Sans Freddie Mercury, bien sûr, Queen n'aurait jamais été Queen. Bienvenue donc dans ce confidentiel Freddie Mercury, tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard, confidentiel. Freddie Mercury est né dans un pays que certains croient imaginaire, dont le seul nom inscrit dans les atlas fait rêver depuis toujours tous les voyageurs. Farrokh Boulsara, fils de Bomi et Ger Boulsara, des Indiens venus de Bombay, a vu le jour le 5 septembre 1946 à Zanzibar. L'archipel, au large de la Tanzanie, est un protectorat de la couronne britannique et Bomi Boulsara est l'un des percepteurs du royaume. Farrokh est un enfant élancé et timide qui, avec sa petite sœur Kashmira, grandit dans l'insouciance, sous le regard doux de sa mère et dans les préceptes d'une religion ancienne, le zoroastrisme, qui bénit le feu et encourage à réaliser ses rêves. Petit Farrokh s'inspire-t-il de ses directives quand il débarque à 8 ans, après 10 jours de voyage, au pensionnat Saint-Peter dans la vallée indienne du Panchgani, où ses parents l'ont expédié pour la suite de ses études. Et où il va rencontrer, effectivement, le feu et les rêves. D'abord, avec l'apprentissage de l'adversité. L'élève Boulsara n'est pas beau. On le surnomme « dent de lapin » à cause de ses molaires proéminentes, sans savoir que cette mâchoire déformée cache le secret d'une voix qui sera bientôt extraordinaire. Mais c'est aussi à Saint-Peter qu'il hérite de ce prénom qui le mènera loin et qu'il gardera toute sa vie, Freddy. On l'a baptisé comme ça parce que Farrokh, c'est impossible à retenir. Freddy est un garçon encore timide, mais bien décidé à se faire respecter. Malgré ses dents exposées à tous les coups, l'adolescent s'entraîne à la boxe. C'est un champion. Il avait un regard d'acier, se souvient l'un de ses adversaires. Il ne cédait pas. Derrière les murs du pensionnat, Freddy découvre aussi la musique. À la radio, il écoute les premiers tubes pop. Les Everly Brothers, ou encore la diva égyptienne Umm Kalsoum. Avec ses amis du collège, il monte même un petit groupe qui joue aux fêtes de l'école. Pour monter sur scène, il a adopté une banane identique à celle de son idole Cliff Richard. Les études se soldent par des diplômes ratés, des connaissances en pointillés et un renvoi. C'est avec cette allure de rocker gominé que Freddy rentre donc à Zanzibar. Il ne va y rester qu'une seule petite année. Il a 17 ans quand un coup d'état militaire secoue l'archipel. La famille Boulsara, des fonctionnaires aisés qui vivent dans une belle maison et travaillent pour le trésor britannique, sont menacés. Ils font leurs valises dans l'urgence, s'enfuient en bateau pour trouver refuge en Angleterre, ce royaume qu'ils servaient mais où ils n'avaient jamais mis les pieds. À partir de ce mois de mars 1964, le jeune Freddy Boulsara effacera son enfance, ne parlera plus guère de Zanzibar. sinon pour décrire un mirage lointain, les contours d'un paradis perdu où le soleil brillait de tous ses éclats. Il ne reniera pas son passé, mais décidera de le mettre entre parenthèses. Dans le brouillard et le froid, la famille exilée s'installe dans la banlieue ouest de Londres, au 22 Gladstone Avenue à Feltham. À l'école, il s'inscrit dans un cours d'histoire de l'art. Il détonne avec ses blazers vieillots, complexés à cause de ses dents, au point de garder le plus souvent ses lèvres collées, pas vraiment dans le cou avec sa banane, alors que triomphent les franges des Beatles. Freddy Bulsara a du charme, du magnétisme, une intensité et une étrangeté telles qu'il séduit tout le monde, les garçons comme les filles. Ici aussi, les études deviennent vite accessoires et sans lendemain. C'est la musique et elle seule qui compte. Celle qu'il joue dans la maison familiale avec des amis, lui au piano et sa mère qui sert du thé à tout le monde. Le jeune homme a désormais l'intime conviction que sa vie se jouera sur les touches d'un clavier, sur une scène où un jour il se fabriquera sa propre silhouette. Il a eu cette révélation en observant le jeu de Jimi Hendrix. Jamais un guitariste n'a été à ce point en transe sur scène, corps à corps avec sa guitare. Dans sa chambre, il a collé une photo du musicien sur un miroir. Il imite ses gestes et ses attitudes, ses jaillissements, ses solos. Et dans la rue, porte le même chapeau de feutre noir que lui. Il est donc temps pour Freddy Bulsara de passer à la lumière. Il a 22 ans. A monté son propre groupe, Wreckage, ce qui signifie au choix débris ou épave, et grimpe sur scène en costume blanc et foulard de soie rose. Mais il a beau répéter à qui veut l'entendre qu'il sera une pop star, il a beau cultiver un épais mystère sur ses origines, il se dit perse, affirme qu'il est né à Londres, évoque une ascendance aristocratique, tout cela, y compris le fait de gesticuler comme Hendrix, de porter les cheveux longs et de se teindre les ongles en noir, tout cela ne suffit pas à ouvrir les portes de la célébrité. Pourtant, il en faut plus pour décourager l'ancien petit boxeur de Zanzibar. Il s'accroche au monde du spectacle, joue les roadies pour transporter le matériel des concerts, propose un jour ses services à un chanteur venu donner un récital au réfectoire de l'école, un parfait inconnu qui fera carrière sous le nom de David Bowie.
Jean-Alphonse Richard,
confidentiel sur RTL.
Voilà, Farrokh Bulsara vient donc de devenir Freddy Mercury. On va bien sûr reparler de ce changement de nom qui va tout changer dans sa vie. Mais avant cela, on revient sur les premiers pas. Bienvenue sur RTL, Selim Rower, bonjour.
Oui, bonjour, merci de votre invitation.
Voilà, vous êtes en direct depuis Minneapolis aux États-Unis où vous êtes professeur de littérature. Vous êtes en direct depuis les studios de la radio KFAI, qu'on salue et que l'on remercie. Selim Rower, vous avez publié en 2008 chez Fayard une biographie de Freddy Mercury. Que lui a apporté cette enfance, comme on l'a vu, une enfance plutôt exotique?
Oui, son enfance, était, il le déclarait lui-même, c'était un peu un territoire secret de son existence. Et durant toute sa vie d'adulte, sa vie d'artiste, il a cherché à garder cette période de son existence, pas cachée, mais on va dire, il avait vraiment mis ça en sourdine. Et c'est vrai que le parcours d'un jeune garçon d'origine perse, né à Zanzibar et ayant grandi en partie dans un internat en Inde, cet aspect un peu exotique n'était pas la partie la plus, qui correspondait le mieux à l'image qu'on se faisait d'une icône du rock. Et son parcours est le parcours d'un immigré qui quitte qui quitte une ancienne colonie, qui connaît une révolution, et lui va se recréer sous un autre mode, d'une façon radicalement différente, à partir des années 60, en Grande-Bretagne. Et puis c'est aussi l'occasion pour lui, finalement, de tenir à distance des moments douloureux de son histoire.
Il met un petit peu cette enfance et cette adolescence entre parenthèses. Mais pourquoi le fait-il ? Il a honte de ce passé, de ses parents, de sa famille ?
Je ne pense pas qu'il avait honte, mais ce que je sais à travers des personnes que j'ai pu rencontrer qui lui étaient proches, comme David Evans, qui était un de ses plus proches amis, qui est un auteur britannique, c'est qu'il il aspirait à quelque chose de complètement différent. En fait, ce qu'il avait connu à Zanzibar et en Inde, c'était d'abord, il avait connu un statut très particulier. Ils avaient vécu, pour ainsi dire, dans l'opulence. Et puis, avec la Révolution, le départ, l'arrivée à Londres, ils ont connu un déclassement social, socio-économique très brutal. Et ça l'a fortement marqué. Donc, il a cherché par la suite à reconquérir un statut et peut-être le souvenir aussi d'un monde qui était un monde disparu. Et ce monde, il a pu le reconstruire, le réimaginer à travers la musique.
Quelles sont ses sources d'inspiration musicale ? À quoi rêve le jeune Freddie Bulsara ?
Je pense que Freddie Mercury, c'est un personnage qu'il s'est construit et qu'il a dû rêver dès son enfance, en fait. Et dans les influences qui ont nourri le personnage de Freddie Mercury, en fait, c'est très hétéroclite. C'est quelqu'un qui était très marqué par la musique classique. Il a une formation, il a fait le conservatoire, c'est un très bon pianiste. Donc il a une formation classique, il a suivi une formation classique très rigoureuse. L'opéra a été une source d'inspiration très très forte, comme on peut le remarquer surtout dans les premiers albums, les 5-6 premiers albums de Queen dans les années 70. Et puis, il écoute beaucoup de choses, des musiques traditionnelles, de la musique arabe. Et puis, il va aussi ensuite découvrir toute la musique noire américaine qui va énormément l'influencer. Hein. Toute la production de la Motown a été très importante pour lui.
RTL. Confidentiel. Jean-Alphonse Richard.
C'est le temps des grandes interrogations et des grandes espérances. Freddy n'a pas un sou, continue à vivre chez ses parents qui commencent à s'inquiéter pour son avenir et squatte chez les uns et les autres. Pas un verre d'alcool et pas la plus petite fumette de marijuana. Quand tout le monde dort après avoir fait la fête, lui sort sa guitare et cherche à retrouver obsessionnellement les accords de Tommy, le dernier album des Who. C'est aussi l'époque où il rencontre Mary. Mary Austin, 19 ans, hôtesse d'accueil dans le magasin de mode le plus branché de Londres en cette fin des 60s, la boutique Biba sur Kensington Church Street. Leurs regards se sont croisés et l'attraction a été fulgurante. Ils ont décidé d'être ensemble et cela a immédiatement coupé court aux supputations sur l'allure efféminée de Freddy, son maniérisme, sa façon de dire chérie aux garçons comme aux filles. On pouvait le soupçonner d'être homosexuel, mot totalement tabou à cette époque, mais sa liaison avec Mary a fait taire toutes les rumeurs. Même si l'avenir fera plus tard du chanteur la plus spectaculaire des icônes gays, Mary Austin restera à tout jamais son plus grand amour. Elle sera le fil rouge de toute une vie. Même quand il lui avouera quelques années plus tard qu'il la trompe avec un homme et qu'il préfère les garçons, elle sera là. Même quand elle refera sa vie et aura des enfants avec un nouveau compagnon, elle continuera à veiller sur lui. À le conseiller, à le consoler, à lui envoyer des signes d'affection, à partager sa gloire comme elle vivra sa descente aux enfers. En cette année 1970, elle est donc aux premières loges pour ce qui va être la deuxième naissance de Freddie Bulsara, qui va avoir l'idée géniale de tout changer. D'abord, le nom du groupe dans lequel il joue avec ses deux colocataires, Roger Taylor, qui se prépare à devenir dentiste, et Brian May, qui suit des études d'astronomie. Leur groupe s'appelle Smile, mais au mois d'avril, juste avant un concert pour la Croix-Rouge au fin fond des Cornouailles, Freddy va le rebaptiser. Persuadé que pour être entendu et écouté, il faut être vu et remarqué. Smile s'appellera donc Queen. Ça sonnait bien, dira-t-il quelques années plus tard. C'était un nom qu'on retient, un nom universel. Freddy veut encore du spectaculaire, du sensationnel pour se démarquer. Les membres du groupe apparaîtront donc sur scène, tous de velours vêtus, bracelets au poignet et foulards de soie. Mais la métamorphose ne s'arrête pas là. Freddy décide de se trouver un nouveau nom de famille. Ce sera Mercury, référence au dieu Mercure, messager des dieux chez les Romains. Ainsi, le chanteur vient d'entrer dans une nouvelle peau, celle d'un personnage sur mesure, dont il rêvait sans doute depuis l'enfance. La musique vient de lui offrir l'opportunité de devenir quelqu'un d'autre. Plus rien, désormais, ne va arrêter l'ascension du messager des dieux Mercury. Moins rapide que prévu tout de même, le premier album ne frappe pas les imaginations et la presse spécialisée se moque de ce chanteur qu'elle trouve arrogant. Une chanson qui va suivre, Seven Seas of Rye, va tout changer. Avec cette mélodie, Queen devient Queen et fait sensation. Même si le groupe ne cavalcade pas encore en tête des ventes de disques, tout le monde parle de lui, de ses concerts toujours flamboyants, dans une chemise de satin blanc plissé, dont les manches s'ouvrent comme les ailes d'un oiseau, Freddie Mercury semble alors planer au-dessus de la scène. D'ailleurs, la plus grande partie de l'argent que commence à gagner Queen est engloutie dans les effets de scène, les lumières et les costumes toujours plus extravagants. Is this the real life? Queen invente l'opéra rock. Is this just fantasy? Une musique de fer dans un gant de glamour. Freddie Mercury, c'est que Queen est entré par effraction dans l'histoire de la pop. C'est donc de reconnaissance dont il a désormais besoin. Il va ainsi s'acharner à écrire la chanson du siècle. « J'ai cette idée », dit-il un jour à des amis dans son appartement. Il s'assoit au piano, joue quelques notes, puis s'interrompt. La suite, ce sera de l'opéra. 12 heures de travail par jour pendant 3 semaines. 180 pistes vocales qui s'enchevêtrent et se chevauchent pour une symphonie de 5 minutes. Mama. Bohemian Rhapsody sera la troisième chanson la plus vendue de tous les temps et plus rien, quoi qu'il arrive, ne pourra priver Freddie Mercury de son titre de pop star. Mama. Mais c'est une idole fragile. Il avait créé son personnage, son nom et son allure pour exister. Et sa créature est en train de le dévorer. Elle ne vit plus seulement sur scène. Dans ses tenues moulantes et pailletées, elle envahit sa vie. À son amour, Mary Austin, il confie qu'il couche avec un homme. Elle sera stupéfaite, triste, mais ne lui en voudra pas. Tous mes amants m'ont demandé pourquoi il ne parvenait pas à remplacer Mary, dira un jour le chanteur. Mais elle était impossible à remplacer. Pour moi, c'était comme un mariage.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Deuxième pause avec vous, Selim Rower, dans ce confidentiel Freddie Mercury. Vous êtes le biographe de Freddie Mercury, on le rappelle, et en direct de Minneapolis aux États-Unis. La gloire, le succès, l'argent, on vient de le raconter, n'ont pas tardé à se dessiner pour Queen, avec en point d'orgue, évidemment, cette chanson Bohemian Rhapsody, qui reste encore aujourd'hui le chef-d'œuvre de Queen. Et c'est pas une chanson banale, Selim Rower. Racontez-nous.
Non, c'est une chanson très très particulière. C'est une composition de Freddie Mercury. Et il a dû se battre pour imposer ce morceau qui durait à l'origine, je crois, plus de 8 minutes. Donc il l'a quand même un petit peu raccourci à 6 minutes. Et pour les radios de l'époque, c'était très problématique parce que les programmateurs et les producteurs dans les maisons de disques ne voyaient pas la possibilité de diffuser une chanson d'une telle durée et surtout une espèce de monstre musical aussi étrange qui parle de la condamnation d'un jeune homme, de sa future mise à mort, et puis le passage dans une sorte d'enfer où ce jeune homme disparaît et sur le mode de l'opéra et le ressurgissement ou la résurrection de ce même personnage sur une modalité musicale qui est vraiment proche du hard rock et qui se termine à nouveau par une mélodie beaucoup plus douce. Il a vraiment essayé de montrer à travers ce morceau ce dont le groupe était capable.
Est-ce qu'il y a un message dans cette chanson, un message caché ?
Alors c'est ce qu'on dit, lui s'est toujours refusé à le commenter. Il disait que ce serait en fait s'introduire dans l'imaginaire de l'auditeur et que ça il ne souhaitait pas le faire. Et que les raisons qui avaient motivé que son propre imaginaire, il n'avait pas besoin de le partager. Mais son assistant personnel, Peter Freestone, lui a une théorie qui me paraît tenir la route, c'est que durant cette époque, il connaît une transition dans sa vie affective. Il vivait avec une femme, il a rompu avec elle et il a décidé d'assumer son homosexualité pleinement et de vivre son identité. Donc cette chanson, en fait, elle évoque probablement ce passage, cette transition vers une autre sexualité, vers une autre vie. Et d'ailleurs, on le voit à partir de Bohemian Rhapsody, à partir de l'album A Night at the Opera, Queen va intensifier son image. Et Mercury va devenir plus radical, plus provocateur.
Il y a effectivement, dans cette époque-là, une immense avidité pour le sexe, l'alcool, la drogue. Comment expliquer ce basculement avec ce chanteur qui était finalement si rangé, si sérieux?
Mais il a toujours été très sérieux, c'est-à-dire que professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui était d'une rigueur extrême. C'était une personne d'une efficacité redoutable, c'est quelqu'un qui travaillait très 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 vite. Mais il a voulu tenter des choses qui étaient aussi, je pense, qui étaient tentées par d'autres personnes de sa génération. Et puis il vient d'un milieu, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu qui était plutôt austère, très traditionnel. Donc je pense qu'il y a eu une sorte de contre-effet. Et puis surtout, je pense qu'on peut tout à fait comparer Mercury à ce mode dionysiaque. C'est quelqu'un qui est vraiment sur une scène. C'est quelqu'un qui vit cette intensité-là et qui la communique avec son public.
RTL Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
Avec le succès arrivent aussi ces mirages. Les illusions de bien-être et de totale liberté. La sensation grisante de savoir que tout est permis. Farrokh Boulsara ne buvait pas et ne fumait pas. En cette fin des années 70, Freddie Mercury est rattrapé par l'alcool et la cocaïne. Avec ses expédients, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Les amants défilent, chasseurs de garçons lors des tournées du groupe, dans les hôtels, les clubs, les fêtes. Comme lors de cette célébration orgiaque du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans, dont il se délecte de la mise en scène. Roi de la fête, il déambule jusqu'à l'aube, au milieu d'une foule de travestis, de stripteaseuses et de danseurs nus. L'alcool coule en cascade et la poudre blanche est servie sur des assiettes en argent. Freddie Mercury prend plaisir à jouer avec les apparences, sans se rendre compte que celle-ci l'emprisonne. Avec les journalistes qui fréquemment l'interrogent sur sa sexualité, il s'amuse. « J'irai au lit avec n'importe quoi », répond-il. Pas question d'en finir avec cet extravagant décor qui habille son existence et qui lui donne toute son inspiration. On pouvait tous écrire des chansons, mais Freddie était né pour ça, affirme son compère de Queen, Roger Taylor. Freddie accélère, lui seul capable de créer des tubes hors normes, quitte à ce que le succès prenne un jour le goût de l'amertume. En écrivant « We are the champions », Freddie Mercury a délibérément imaginé des stades, des matchs, des foules qui entonneraient ce nouvel hymne à la joie et à la victoire. si la chanson va vite contribuer à façonner la légende Queen, la critique désigne son créateur comme un auteur controversé, flattant les bas instincts des foules. Un critique de Rolling Stone présente même Queen comme un groupe fasciste. Queen, lit-on, est une supercherie, une fausse provocation, de la poudre aux yeux. Freddie Mercury fait bonne figure, mais il est blessé. We Are The Champions, mais aussi We Will Rock You, mettent Queen entre parenthèses dans l'univers du showbiz. Jamais Mercury n'a gagné autant d'argent, un appartement à New York, une maison de style géorgien à Londres, des tableaux de maître, des fêtes au champagne, caviar et homard, mais jamais pourtant il ne s'est senti aussi méprisé. Les tournées du groupe, dans les stades d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, puis en Afrique du Sud sont des succès. 251 000 Brésiliens reprennent en chœur Queen dans le stade Morumbi à Sao Paulo. Mais ce périple triomphal achève d'écorner l'image du groupe et de Freddie Mercury. Comment peut-on se produire au Brésil et en Argentine des dictatures militaires et en Afrique du Sud, royaume de l'apartheid, de la ségrégation des Noirs et des Blancs? Queen se retrouve ainsi banni du tout premier Band Aid qui chante pour l'Éthiopie en 1984. Bob Geldof, l'organisateur, n'a pas voulu du groupe. Cette fois, Freddie Mercury est touché en plein cœur. Sur le coup, il ne comprend pas bien cette exclusion. « Je n'écris pas des chansons à message » ou « Queen ne fait pas de politique », répète-t-il à qui veut l'entendre. Mais personne ne l'entend. C'est la deuxième fois que Freddie Mercury se sent abandonné, rejeté. La première, c'était quand il avait vu sa mère pleurer en quittant Zanzibar sans avoir le temps de se retourner. « Je ne sais plus où on va », confie alors le chanteur qui sombre dans la dépression. Il porte désormais une moustache, des cheveux courts, des pantalons de cuir et des débardeurs moulants, panoplie presque parodique de la nouvelle planète gay des clubs new-yorkais, le moyen d'afficher son homosexualité sans jamais la révéler officiellement. Ce mur-là, celui d'assumer ses choix sexuels, n'est pas encore tombé. C'est le temps où sa vie part dans tous les sens. Il vit près de Montreux, en Suisse, où le fisc est plus avantageux qu'à Londres, et il fait la fête à Munich, où les discothèques ne ferment jamais. Ici, les rencontres sont éphémères. Une heure, une nuit, avec des hommes plus jeunes que lui. Il a la quarantaine et se laisse happer par le sexe, la drogue, l'alcool, au point d'oublier fréquemment où il était la veille. Des années de défonce où il consomme les amants. « Je vis pour le sexe », répète-t-il. Une liaison avec Rudolf Nureyev, mais aussi une romance avec une femme, une actrice autrichienne qui a tourné avec Fassbinder. Barbara Valentin le trouvera un matin nu sur un balcon, exhibant son sexe devant les ouvriers d'un chantier, en chantant « We are the champions ». Personne, ni sa nouvelle muse Barbara, ni les autres membres du groupe, n'arriveront à enrayer cette longue glissade. À croire que Freddie Mercury se complaît à mettre en scène sa vertigineuse descente aux abîmes. Quand on tente de le raisonner, ou de lui faire un brin de morale, il repousse son interlocuteur « J'aime la nuit, j'aime l'extravagance ».
Yeah.
Confidentiel.
Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Le 13 juillet 1985 marque le retour en grâce de Queen. Au stade de Wembley, le groupe est enfin invité au grand gala de charité pour l'Afrique. Le Live Aid se joue en direct devant 1,5 milliard de téléspectateurs. Statu quo, U2, Elton John. Mais ce soir-là, c'est seulement Queen qu'on va voir et entendre. Depuis qu'il mène le groupe, la devise de Freddie Mercury est simple. Rendez-les aveugles et sourds. Il tient parole. Jamais un show n'a emporté à ce point le monde entier. Après leur sortie, Elton John se rend dans la loge de Queen. « Bande d'enfoirés, dit-il en riant, vous avez volé le spectacle. C'est le plus grand jour de nos vies », s'exclame le chanteur. Même quand les gens vous laissent tomber, on a envie de monter sur scène, répète Freddie Mercury. C'est comme cela qu'il a toujours tenu le choc. Sans doute croit-il qu'après le hold-up de Wembley, désormais tout sera plus simple. Queen est au sommet, la cérémonie du sacre est partie pour durer des siècles. Son chanteur s'est même fait fabriquer une nouvelle tenue de scène, une cape royale de velours rouge bordée d'hermine et une couronne constellée de brillants. Le monarque à moustache aime la brandir à bout de bras devant les foules survoltées de ses sujets. Même si pour la première fois de sa vie, la fatigue l'envahit. En tournée, en Espagne, il confie à un autre membre du groupe. « Je ne ferai pas ça toute ma vie. Personne ne le prend au sérieux. » Personne non plus ne se doute qu'une semaine plus tard, le 9 août 1986, dans le parc de Knebworth House, devant 200 000 personnes, Freddie Mercury apparaîtra pour la dernière fois en public avec Queen, l'ultime parade du groupe. Après le show, le chanteur répète « Je ne veux plus faire ça, j'ai mal partout. Cette fois, on l'écoute, il ne joue plus, ne triche plus, son masque est grave, presque décomposé. » Quelques mois plus tard, il est avec la cantatrice espagnole Montserrat Caballé. Le monde de l'opéra le hante depuis si longtemps. Il n'a cessé de rêver à cette rencontre où sa voix de stentor se marierait à celle de la chanteuse, de ce jour où le bel canto et la pop ne formeraient plus qu'une seule rivière, une unique musique. I had this perfect dream. Dans un festival à Ibiza, Caballé et Mercury interprètent donc Barcelona, l'histoire de deux amants qui se désirent. En coulisses, le chanteur reste longtemps devant un miroir, obsédé par cette tache rouge sur sa joue. Il avait passé un test. Il sait désormais que le sida, la peste gay comme on l'appelle encore, s'empare de son corps, que le compte à rebours contre ce mal dont on ne guérit pas est engagé. Le 8 octobre 1988, à Barcelone, qui accueille le drapeau olympique des Jeux de Séoul, il chante à nouveau avec Caballé. Il apparaît empâté. Il demande à s'asseoir en sortant de scène. Freddie Mercury n'avait jamais envisagé de mourir. Et le voilà qui prépare sa sortie. Aux membres du groupe qu'il réunit dans la maison de Garden Lodge, il fait jurer de ne rien dire, surtout pas à ses parents. Même si sa mère avait perçu depuis quelque temps l'éclat éteint et triste de son regard. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, je savais qu'il était très malade, confiera-t-elle. Le chanteur continue à travailler en studio sur une poignée de dernières chansons, le plus souvent assis, emmitouflé dans une couverture. Il n'a plus de force, il perd la vue. Un jour, il demande à un membre du groupe « Écris pour moi, je chanterai ».
Le 24 novembre 1991, le roi Mercury, messager des dieux de la pop et du rock, s'arrête de respirer. Queen perd son âme et sa voix. Trois jours plus tard, au crématorium de Kensal Green à Londres, Aretha Franklin chante devant son cercueil. Montserrat Caballé reprendra un peu plus tard l'air du Trouvère de Verdi.
Newly, some love and care.
Il y a là toute la famille Boulsara, des anciens amants, des fans portant des brassées de fleurs et une femme blonde en manteau noir. C'est Mary Austin, son éternel amour. C'est à elle que Freddie a demandé qu'on confie ses cendres. Dans ses dernières volontés, il l'a priée de les disperser dans un lieu qu'elle ne révélerait jamais. La légende dit que l'esprit de Freddie Mercury flotte désormais dans l'océan Indien, au large des côtes de l'île de Zanzibar.
Freddie Mercury.
Jean-Alphonse Richard.
Freddie Mercury, donc mort à 45 ans, foudroyé par une maladie qu'il aura essayé de défier. Toujours avec nous, le biographe du chanteur, Selim Rower. Jusqu'à son dernier souffle, Freddie Mercury aura été finalement en représentation.
Il aura cherché en tout cas à faire vivre la chose qui était pour lui la plus importante, c'est son amour de la musique et sa relation avec son public. D'abord, on découvre après sa mort, d'une façon, j'allais dire, probablement plus consciente, que si c'était une bête de scène probablement inégalée, c'était un homme de scène absolument incroyable, d'une très grande force, avec un magnétisme assez inégalé, c'était surtout d'abord un très grand compositeur. À partir de la dernière période de sa vie, après 1987 jusqu'en 1991, ce qui va vraiment compter pour lui, c'est la production musicale écrire, composer et enregistrer autant que possible, et surtout maintenir cette relation très particulière qu'il a avec son public. Je crois que ce qui frappe, c'est sa sincérité. C'est-à-dire que, un peu comme quelqu'un comme Maria Callas, quelque part, c'est une personne qui s'adresse à la multitude comme s'il s'adressait à une seule personne. Et probablement une personne absente, en fait.
Il meurt très seul, plus seul que jamais. Il n'y a plus d'amis du tout autour de lui, ou peut-être des gens qui en profitent d'ailleurs, qui jusqu'au bout vont essayer d'être dans son sillage.
Oui, il a été trahi par un personnage qui est mort depuis et qui s'est avéré être assez abominable. Paul Prenter, qui était un de ses assistants personnels au début des années 80. Et Paul Prenter va vendre à la presse pour 40 000 livres beaucoup de secrets, entre guillemets, sur la vie privée de Freddie Mercury, et puis surtout sur des amants qui sont en train de, soit qui sont déjà morts, soit qui sont en train de mourir. Donc il y a quelque chose de vraiment d'assez horrible. Et cet homme, en plus, avait été soutenu par Mercury. C'est-à-dire que lorsqu'il a quitté le management du groupe Queen, Paul Prenter a été soutenu. Mercury était très fidèle en amitié. Il lui avait donné beaucoup d'argent, il lui avait acheté un appartement à Londres pour qu'il puisse voir l'avenir plus sereinement, et cet homme l'a trahi.
Et en quelques mots, et pour conclure, Selim Rower, que laisse Freddie Mercury un héritage dans le monde de la musique et dans le monde de la chanson ?
Sans aucun doute. En France, il a été très très maltraité par la presse. Il était considéré comme un artiste un peu kitsch, un peu exubérant. Et c'est depuis peut-être les 10 dernières années qu'on réalise l'importance de son héritage musical, la richesse aussi de sa production. Et puis, je pense qu'il va laisser l'image d'une icône du rock, comme il n'en existera plus. Comme il ne peut plus probablement en exister, parce qu'on vit dans une société qui est très différente. On vit dans une société qui est vraiment celle de qui est la société du spectacle, où aujourd'hui la plupart des gens peuvent se mettre en scène eux-mêmes à travers les réseaux sociaux, où les gens s'écoutent aussi énormément. Il y a des aspects très positifs aux réseaux sociaux, mais aussi des aspects négatifs. Et je pense que ces personnages qui étaient si à travers lesquels des personnes vivaient un peu leur fantasme, aujourd'hui ne peuvent plus exister de la même manière parce que les imaginaires ont évolué.
Merci Selim Rower pour votre précieux éclairage sur Freddie Mercury. Vous nous parliez depuis la radio KFAI à Minneapolis. Confidentiel, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre rebelle, le plus flamboyant d'Hollywood. Ce sera La vie incroyable de Marlon Brando.